du rapport entre le global et les territoires, le global et le local. Et dans cette position d'interface entre les deux, on voit très bien comment la métropole est au cœur, la ville portuaire, la métropole, la ville, est au cœur de ces réseaux de circulation de marchandises et de flux immatériels d'informations et de communications qui sont caractéristiques de la nouvelle société post-fordiste. Alors on travaille à partir d'exemples français, bien sûr français, en Europe et en Amérique, parce qu'il est important de, étant donné de regarder ce qui se passe au-delà de nos frontières. Je ne vais pas vous faire un cours sur la logistique, mais dire quelques mots juste sur la logistique, parce que d'abord il y a beaucoup de sortes de logistique. Celle dont je parle, donc, c'est la logistique du commerce international, qui représente vraiment un nœud qui est au carrefour de ces flux de circulation de marché. Et ça n'est pas que de la circulation, c'est du stockage, de la transformation de marchandises, de la distribution de marchandises, qui se combine avec des réseaux immatériels d'informations, de mondialisation de cette sorte. Les lieux de production sont disséminés de par le monde entier. Mais ce sont les plateformes logistiques, les ports, les aéroports, qui coordonnent l'ensemble de ces réseaux jusqu'au lieu de consommation. Alors, beaucoup d'analystes limitent leur intérêt et la logistique à l'analyse, je dirais, technique du transport. Et regardent les multinationales. Je dirais un peu du point de vue du capital où tout n'est que transit, flux, vitesse. Alors il y a toute une terminologie anglo-saxonne, just in time, point to point ou zéro stock plus simplement pour nous, que vous connaissez peut-être plus. Et effectivement, ces logistiques-là sont des logistiques qui sont très déterritorialisantes. Qui, en tout cas, qui cassent les territoires, qui traversent les frontières, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui créent des nouvelles plateformes, des hubs, comme a parlé Pierre Mousseau, qui sont des sortes de carrefours de réseaux où transitent des marchandises en conteneurs. Il faut savoir que le conteneur, c'est l'unité de base de la mondialisation. Sans le conteneur, il n'y a pas de mondialisation non plus, comme il n'y a pas de... sans réseau... immatériel d'information, il n'y a pas de mondialisation non plus, mais c'est l'unité de base de transport de toutes les marchandises qui circulent de par le monde. Et beaucoup d'analystes économiques, particulièrement les anglo-saxons, ne regardent que ces lieux de flux du capital, où c'est un univers technique là où la ville est totalement absente. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est les autres analystes qui regardent que dans cette nouvelle organisation du capital, les métropoles sont de plus en plus nécessaires. Et donc, nous, là, nous avons déjà parlé de Pierre Wels, qui, effectivement, un des premiers à montrer l'importance de la métropole, comme il dit, comme... pour Wels, vous connaissez la formule, la métropole, c'est une assurance garantie qui permet une plus grande flexibilité des entreprises contre la certitude des firmes. Enfin, il a tout un discours là-dessus pour une réversibilité des choix des entreprises. Elle est donc indispensable aux multinationales. Alors, moi, je trouve que dans ce sens-là, la métropole est essentiellement considérée comme une externalité positive pour la firme. On a parlé de Saskia Sassem aussi, je pense que Saskia Sassem a bien montré les fonctions stratégiques qui font une métropole. Elle l'a bien expliqué, dans la mesure où effectivement l'entreprise, l'époque industrielle, n'avait pas besoin n'avait pas besoin d'autant de services pour la production, la circulation de marchandises que la société post-fordiste aujourd'hui en a besoin. Elle a montré toutes ses compétences, ses fonctions de nature immatérielle, de commerce international, finance, ingénierie, consulting, enfin bon, toutes ces choses. Bon. Alors, nous, ce qu'on fait comme hypothèse ici, c'est passer cette idée d'externalité positive pour la ville et de dire qu'aujourd'hui, la métropole, c'est beaucoup plus que ça. Que dans la nouvelle métropole qui devient productive. C'est-à-dire, c'est l'ensemble des spécificités qui fait chaque ville, enfin, les spécificités de chaque ville, font que aujourd'hui il y a une productivité qui est largement beaucoup plus productive encore. Dans nos recherches, en effet, nous voyons par exemple que les villes portuaires d'Europe du Nord, Anvers, Rotterdam, Hambourg, des villes comme ça, c'est d'utiliser l'ensemble des capacités créatives qui sont dans la ville pour un positionnement économique, positionnement dans l'Europe, positionnement dans le monde. Alors, dans le texte que j'ai mis sur le site, l'exemple de Rotterdam, parce que Rotterdam, ça montre bien comment une métropole qui veut s'insérer dans des réseaux mondiaux, elle va essayer de faire une véritable mobilisation de l'ensemble des cas. Bon, il y a des gens qui connaissent peut-être mieux Barcelone ou Hambourg, j'aurais pu prendre aussi ces exemples-là sur lesquels on a travaillé. Moi, j'aime bien l'exemple de Rotterdam, parce que Rotterdam a un slogan qui dit « Men port niet ». Ça veut dire que Rotterdam, pendant toute l'époque industrielle, a été le premier port du monde. Quoi ? Parce qu'elle était une gigantesque zone industrielle ou portuaire, essentiellement pétrolière, une grande zone de flux, de transit, de marchandises, avec donc des fonctions d'industrie et de transport, essentiellement. Aujourd'hui, avec la mondialisation, Rotterdam n'est plus le premier port du monde. Je crois qu'il est le septième, ou quelque chose comme ça, il est toujours le premier port européen en tout cas, parce qu'en fait, Rotterdam est relativement inadapté, entre guillemets, à la mondialisation. Enfin, inadapté de son propre point de vue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'objectif de Rotterdam, c'est de devenir un pôle logistique de commerce, ce qui n'a rien à voir avec le port industriel qu'il était avant. Donc, ce que veut Rotterdam, c'est être une porte de l'Europe pour les marchandises, qui viennent de partout, d'Asie, de partout. Ça énonce la nécessité de mobiliser la ville tout entière. Qui est intéressant, c'est-à-dire que là, il y a l'idée qu'il n'y a pas l'urbain d'un côté et l'économie de l'autre. On est dans un processus de tentative de mobilisation de l'économique, de l'urbain, du social en même temps. Bon. Donc, bien sûr, la ville de Rotterdam développe une économie de service aux entreprises qui lui est bien nécessaire parce qu'elle n'a pas toutes les fonctions stratégiques qui lui sont nécessaires dans la mondialisation. Mais aussi, aujourd'hui, elle s'appuie sur des réseaux productifs qui sont fort potentiel cognitif, avec des figures sociales qui sont complètement différentes des profils sociaux de l'ère industrielle où elle avait une classe ouvrière, forte composition immigrée. Aujourd'hui, elle recherche d'autres qualifications dans la ville de gens qui sont à fort niveau de créativité intellectuelle, immigrée. Alors, j'ai pris deux exemples des mobilisations des capacités de... Je dirais deux mots juste, c'est plus développé si vous avez envie sur Internet, avec Léo, pardon. Bon, je parle de la requalification des friches de l'époque industrielle. C'est intéressant en soi parce que ça illustre bien le passage de la société. On a vu très tôt Rotterdam rechercher à développer une urbanité en recomposant ses friches qui allait bien au-delà de la seule valorisation de l'environnement urbain, en jouant toujours de cette idée de l'intégration de l'économique et de l'urbain et du social. Donc, à travers la requalification des quartiers de friches anciennes qui ont été parmi les premières d'Europe, on voit une espèce de mobilisation de toute la morphologie de la ville. C'est ça qui est intéressant. Et en écrivant, je disais qu'on peut parler d'une véritable biopolitique de la ville, où sa morpholonité, tout ça s'est intégré au cœur de l'économique, alors que dans la société industrielle, la ville n'était considérée que comme le lieu de la reproduction. Bon, y a un autre exemple de valorisation et de mobilisation de la ville, c'est ce que savent bien faire les villes d'Europe du Nord, c'est valorisation comme un objectif stratégique hein, de mise en valeur des capacités de la ville. On parle patrimoine, on fait des ports-musées qui sont une catastrophe économique, donne dans le patriotisme, etc. Là-bas, dans les villes d'Europe du Nord, on utilise la culture et le patrimoine véritablement comme des facteurs de production modernes, hein, utilisables dans la moderne aujourd'hui, et qui vont donner une nouvelle urbanité, qui vont avoir beaucoup d'effets sur, sur le positionnement de la ville et l'économie de la ville en général. Donc, un peu globalement, ce qu'on fait, c'est qu'on oppose la ville de la reproduction de l'époque, la ville de l'ère post-industrielle, qui se positionne essentiellement, bien sûr, par l'intégration dans l'ensemble de réseaux, mais par ses dynamiques sociopolitiques spécifiques dans les réseaux. J'ai donné cet exemple-là. Si vous connaissez l'exemple de Barcelone, il y a une mobilisation extrêmement forte des capacités intellectuelles, artistiques, qui sont faites dans un objectif de positionnement économique. Alors, bon, moi, je reviens à des interrogations politiques dans tout ça, c'est-à-dire qu'est-ce que, dans cette mobilisation des forces de la ville, des forces productives de la ville, qu'est-ce que c'est?